16, vous êtes à l'écoute de Lux Radio. C'est le moment de retrouver votre rendez-vous Mon Corps, Ma Vie avec Hicham Benabastarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il vient de nous rejoindre en studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui aux dyspareunies, ces douleurs ressenties lors de rapports sexuels. Avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite les auditeurs également à poser leurs questions et à réagir sur notre application Lux Radio.
Hicham Benabastarji, la dyspareunie est définie comme une douleur génitale récurrente ou persistante qui accompagne toute tentative de pénétration vaginale. Alors ma première question est de savoir si cette douleur est physique ou bien elle est ou bien est-elle psychologique, et puis quelle est aussi la différence avec le vaginisme?
Elle peut être les deux, elle peut être physique, elle peut être psychologique. Et, alors le vaginisme, c'est une contraction involontaire du vagin, des muscles du plancher pelvien qui empêche la pénétration. Et cette contraction, ben, c'est une histoire de tension, ça peut donner des douleurs aussi. Mais le vaginisme, il y a à des degrés de vaginisme en lui-même, selon la définition, c'est une impossibilité de rapport. Il n'y a pas de pénétration. Alors que là, la dyspareunie, c'est des douleurs au moment du rapport. D'accord? Donc, ça peut être du fait d'un vaginisme, donc avec des spasmes et donc une sensation de brûlure parce que justement le fourreau va faire mal du fait de l'acte sexuel. Mais la dyspareunie, je veux dire le vaginisme, elle va empêcher elle a tellement peur de ce couteau qu'elle imagine que le pénis est imaginé comme un couteau. C'est l'inconscient, bien sûr. Elle a tellement peur que le rapport est pas possible. Mmh. Et si le rapport est possible, eh ben, ça fait mal. Mmh. Parce que je dis encore une fois, c'est là où on dirait la douleur psychique.
Mais maintenant, donc si je comprends bien, vaginisme, impossibilité de rapport, dyspareunie, donc il y a un rapport,
Sauf que ça fait mal.
Très bien.
Alors justement, on distingue deux formes de dyspareunie.
On va en parler évidemment, d'accord. Mais avant, je voulais savoir, et pour être vraiment plus précis, la douleur, elle se situe où exactement?
Ça dépend, mais elle se situe en bas et ça gêne le rapport et ça empêche carrément des fois
Parce qu'en bas, c'est quoi? C'est l'utérus,
ça dépend, justement, on peut dire, c'est là où on vient par rapport aux formes de dyspareunie. Est-ce que c'est une dyspareunie orificielle et ça fait mal à l'entrée du vagin pour différentes causes? Ou est-ce qu'au contraire, non, la pénétration est facile et n'est pas douloureuse au début? Et c'est quand le pénis tape l'utérus ou bouge donc les organes par ses mouvements de va-et-vient que ça réveille une douleur donc rétropubienne derrière le pubis, donc, et que ça peut être justement l'utérus donc du bas-ventre. C'est pour ça que la douleur elle est variable, et ça peut être des douleurs dans certaines positions comme des douleurs dans d'autres. Certaines positions ne sont pas douloureuses alors que d'autres positions
vont être douloureuses. Mais ça peut être propre à certaines positions.
Ben, ça dépend de la cause. Encore une fois, ça dépend de la cause de cette dyspareunie.
Hicham Benabastarji, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On parle de dyspareunie. Alors, on distingue aussi deux types de dyspareunie, voire quatre. Alors, il y a la dyspareunie superficielle et celle profonde. Oui. Il y a aussi celle primaire et celle secondaire. Quelle est la différence entre les quatre?
Alors, je ne connaissais pas la primaire et secondaire. Vous me l'apprenez, merci. Je dirais que la primaire, c'est une dyspareunie chez quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc, la secondaire, ça serait après les rapports. Et la dyspareunie primaire, je l'associerais beaucoup plus au vaginisme. Elle n'a jamais eu de rapport. Et donc, justement, elle a peur et elle se contracte. C'est ça qui donnerait la dyspareunie primaire. Je ne connaissais pas cette définition. Mais là, classiquement, on définit donc les deux dyspareunies. Ce qu'on recherche, c'est est-ce que là, c'est la dyspareunie orificielle, ou au début du vagin, superficielle, et justement où c'est très souvent donc soit une cause physique, une infection, une imperforation ménéale. Vous savez, si vous avez une bride vaginale, vous me rappelez une patiente, si vous avez une bride vaginale, c'est-à-dire un lambeau d'hymen, un pont de tissu, de muqueuse entre l'hymen, eh ben, le zizi tape dedans, il essaie de pénétrer, alors que l'orifice est trop petit. Et donc, c'est normal que ça fasse mal. Et que c'est normal que ça entraîne aussi un vaginisme et une dysménorrhée primaire. D'accord? Ça peut être une malformation. Ça peut être une infection vaginale ou vulvo-vaginale. Donc, l'examen va permettre la cause.
Au contraire, donc là, vous parlez en fait des causes.
Des causes, oui. Non, mais je vous dis, ça peut être la dyspareunie orificielle et qui peut être aussi d'origine psychogène par rapport à cette anxiété, par rapport à ce stress. Alors que la dyspareunie profonde est beaucoup plus physique, c'est-à-dire il y a une cause, c'est une cause balistique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va entraîner une douleur. Elle n'est pas psychique, la douleur profonde. C'est-à-dire, et là, on va suspecter soit un nodule d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie avec des poches de sang vieilli, de cet endomètre qui a saigné. Donc un nodule endométriosique de la cloison recto-vaginale profond, eh ben, c'est quand le pénis va le toucher que ça va faire mal. Si ça ne le touche pas, ça fait pas mal. C'est pour ça que cette dyspareunie est par à la position ou par rapport à la pénétration profonde. Un utérus collé. C'est-à-dire quand vous avez déjà été opéré, je ne sais pas, qu'il y ait des séquelles ou une infection, ce qu'on appelle la séquelle de chlamydiose, avec un pelvis blindé, avec des adhérences qui accolent l'utérus. Cet utérus est immobile, il est fixé. Le fait de le mobiliser par les mouvements du pénis sur le col et donc sur l'utérus va provoquer des douleurs. Et donc on va penser à cela.
Ça peut être aussi une malformation de l'utérus.
Les malformations de l'utérus, généralement, ça ne donne pas de douleur. Enfin, sauf si la malformation de l'utérus qui va donner des douleurs, c'est ce qu'on appelle l'hémiutérus borne avec des sécrétions, ça va, avec des sécrétions, oui, de sang. Et donc, ça ressemble un peu à l'endométriose. C'est ce sang qui va faire mal et ça va pas faire mal au moment du rapport. D'accord? Un utérus bicorne, c'est-à-dire divisé en deux, ou un utérus cloisonné ne fait pas mal, ne provoque pas de douleur. C'est vraiment, je vous dis, il y a quelque chose de physique, au fond, qui colle l'utérus ou qui fait mal quand on le touche. La dyspareunie profonde n'est pas d'origine psychogène. Il y a une autre cause, un fibrome, par exemple, une masse, un kyste ovarien qui est dans le pelvis. Et donc, eh ben, il peut être touché par les mouvements du pénis et faire mal à ce moment-là. Donc, juste pour résumer, je dirais, dyspareunie profonde, il y a forcément une cause organique, on peut toucher à l'examen. La dyspareunie orificielle, c'est soit organique, je vous dis infection, malformation, soit psychogène.
D'accord. Alors, est-ce que, en parlant justement de dyspareunie profonde, est-ce que cette dyspareunie est accompagnée de saignement, par exemple, de ce genre de choses?
Ça dépend.
Ou bien c'est rare?
Ça dépend de la cause. Mais c'est-à-dire, la dyspareunie n'est qu'un symptôme qu'il faut essayer de rechercher d'autres symptômes pour voir. Je vous dis, ça peut être, cette dyspareunie peut être en relation avec un fibrome qui peut mourir, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la nécrobiose. Et alors, ça va donner aussi des douleurs, d'autres douleurs. Il peut y avoir un kyste hémorragique ou un kyste ovarien qui va faire ça. Donc, on va retrouver la cause à ce moment-là. Mais je veux dire, la dyspareunie isolée, je vous dis, généralement, elle n'est pas associée à d'autres causes.
En gros, si je comprends bien, un rapport sexuel ne devrait pas être accompagné de douleurs génitales récurrentes. Et s'il y a ce genre de douleur, il faut consulter.
Tout à fait. Tout
voilà.
À fait.
Donc, au vu justement de la multiplicité des causes et des facteurs physiologiques possibles dont on parle depuis tout à l'heure, comment se fait justement le diagnostic de la dyspareunie? Et puis, est-ce qu'il existe un traitement de ce trouble?
D'abord, ne pas minimiser ce trouble. Un couple qui vous dit, ou une femme qui vous dit « j'ai mal au moment des rapports », il faut d'abord l'écouter. Il ne faut pas lui dire rapidement « non, c'est que dans ta tête, il n'y a rien du tout ». Premièrement, donc être à l'écoute de cela. Deuxièmement, bien examiner tout doucement, déplisser l'appareil génital. Donc tout examiner doucement pour voir est-ce qu'il n'y a pas, je vous dis, de malformation, est-ce qu'il n'y a pas de sécheresse. De lichen scléreux, c'est des affections de la peau qui vont entraîner une sécheresse de l'orifice vulvaire qui va donc se rétracter. Et bon, c'est rare de voir ça chez la femme jeune, mais dans un groupe récent de notre diplôme d'esthétique et de restauration génitale, par exemple, on a partagé une photo récente d'une femme qui est de 36 ans, chez qui on suspecte donc un lichen, donc ça arrive. C'est de la sécheresse. Voir, est-ce qu'il n'y a pas une malformation. Un jour, j'ai eu à examiner une dame qui avait justement un vaginisme, entre guillemets. Et en fait, ce vaginisme était tout simplement parce qu'il y avait un pont de muqueuse qui limitait, qui diminuait vraiment la taille de l'orifice hyménéal et qui empêchait le... Et elle a développé un vaginisme secondaire à cause de ça, parce qu'ils essayaient, Ils avaient vu plein de médecins avant. Personne n'avait vraiment examiné et vu qu'il y avait cette petite peau qui bloquait le passage. Et donc, il suffisait de bien examiner et de la couper pour permettre de traiter. Voir est-ce qu'il n'y a pas une infection, une mycose chronique, un herpès, une infection génitale, va donner, donc je veux dire, vous allez voir la vulvovaginite, c'est-à-dire ça fait mal, donc on peut à ce moment-là faire le diagnostic et traiter. D'accord? Y avait, alors, la dyspareunie peut être aussi secondaire. Vous me rappelez le cas d'une patiente qui était au Canada, qui avait déjà accouché, et qui avait eu un accouchement assez traumatique. Elle avait mal vécu cet accouchement, avec épisio, c'était très difficile. Et en fait, donc, au moment des autres rapports, même si elle voulait faire l'amour avec son mari, reprendre, ça lui faisait très mal. Et en fait, c'était un vaginisme secondaire. Vous voyez, la pénétration était possible, elle avait déjà accouché par voie basse, mais tout simplement, elle avait tellement gardé des traces psychologiques, je dirais, de son premier accouchement, que son cerveau a dit, ah non, non, moi je veux plus de rapport, si je vais revivre cette... Il y a un proverbe que j'utilise beaucoup, c'est vraiment cela.
D'accord. Alors, dernière question, Hicham El-Abastagi, est-ce qu'il se peut qu'après avoir traité une origine physique, que justement la dyspareunie persiste?
Alors, si on a traité l'origine physique, elle n'a plus à persister. Par contre, il y a le côté psychogène et le côté vaginisme qui va se rajouter dessus. Je vous dis, et
Donc là,
après,
il faut s'orienter vers
non,
un sexothérapeute ou...
il faut juste, c'est ce qu'on traite, c'est comme ça que je traite les vagines, par exemple, c'est expliquer qu'avec de la douceur, avec éventuellement de l'introduction de bougies de dilatation, de doigts, que le rapport doux ne fait pas mal, de telle manière à réassurer le cerveau et l'inconscient, qu'il se peut, donc on peut très bien avoir des rapports. Bien sûr, on peut utiliser aussi des lubrifiants ou éventuellement des œstrogènes locaux, de l'acide hyaluronique, pour donner de la trophicité, pour traiter la sécheresse, traiter une éventuelle mycose, et à ce moment-là, pour expliquer que le rapport ne fera pas mal. Et c'est quand elle reprendra confiance, qu'elle verra qu'elle peut avoir des rapports non douloureux, qu'elle dépassera cette douleur.
Donc il faut du temps, de la patience et beaucoup de douceur.
Beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute aussi, beaucoup d'écoute et un examen minutieux. Voilà.
Merci beaucoup, Hicham El-Abastagi, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous retrouve la semaine prochaine.
Inch'Allah, merci à vous.
Sachez